France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre cheminement à travers les paradoxes de la vie amoureuse et l'énigme du consentement depuis la dimension de l'inconscient. La palette des affects que nous éprouvons dans l'amour, du plaisir à la douleur, de la joie au mépris, de l'enthousiasme au dégoût, de l'excitation à la chute du désir, est si contrastée que nous sommes quelquefois pris de court. Nous allons explorer aujourd'hui un étrange sentiment qui est celui du mépris. Comment l'amour peut-il quelquefois déboucher sur le mépris ? Mépris de l'un à l'égard de l'autre, depuis une déception, un malentendu, une blessure éprouvée. L'amour est cette étrange expérience qui peut à la fois conduire à idéaliser l'autre, au point de se sentir sans valeur sans lui, mais qui peut aussi se retourner en expérience du mépris, ou peut-être plus justement de la méprise, lorsque le malentendu amoureux conduit à la désillusion. Le mépris est ce sentiment qui fait juger une personne indigne d'égard. Mais c'est aussi un sentiment qui peut avoir une tonalité stoïcienne, lorsqu'il s'apparente à une façon de ne pas se laisser toucher par le destin. Ce sentiment, qui peut quelquefois nous aider à nous détacher d'un événement douloureux, prend peut-être racine dans la méprise. L'amour nous prend au corps, il nous dépasse, mais il nous conduit aussi, dans certaines rencontres, à nous méprendre sur l'autre et aussi sur nous. Le mépris ne viendrait-il pas en effet d'une méprise qui nous a conduit à nous tromper sur ce qu'un autre voulait de nous, sur l'amour que l'on pouvait croire qu'il nous portait et peut-être aussi sur ce que nous pensions être pour lui. Se méprendre, c'est se tromper, mais se méprendre, c'est aussi croire en quelque chose qui n'existe pas et un jour s'apercevoir de sa méprise. Le consentement a souvent partie liée avec la méprise, car ce à quoi je consens met en jeu le désir et la jouissance sans que je sache très bien où cela peut me conduire. Nous allons tenter d'avancer dans ces jeux de l'amour et du hasard qui quelquefois tournent mal. Lorsque le discours amoureux cède la place au silence, lorsque la dispute tourne à la rupture, lorsque ce que Lacan nommait le non-rapport sexuel sépare les corps et fait taire les voix. Nous allons voyager sur l'île de Capri, où je vais vous emmener, là où la luminosité du soleil fait cligner des yeux et là où pourtant il va être question de les ouvrir. Avec Jean-Luc Godard, nous allons explorer deux modalités étranges du consentement. L'une qui s'apparente à la lâcheté morale, l'autre qui s'apparente à une façon de se laisser faire par angoisse. Nous allons déchiffrer le malentendu amoureux qui a fait se tarir entre Paul et Camille les fragments de discours amoureux. Nous allons explorer le lent détachement qui fait dire à une femme « Je te méprise, Paul ». Après avoir partagé avec vous cette élaboration sur le consentement et le mépris, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible dans l'application Radio France et sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Clotilde Le Guil, sur France Inter.
Je te méprise. Voilà très sentiment que j'ai pour toi. C'est pour ça que je t'aime plus. Et tu me dégoûtes quand tu me touches.
Alors, avant de partir en voyage dans la villa de Malaparte, restons quelques instants chez Freud. Arrêtons-nous un moment chez Freud et chez Lacan pour y piocher quelques indications cliniques sur la complexité de la vie amoureuse et de la rencontre entre les sexes. Il y a en effet de multiples façons d'aimer, qui répondent à des conditions subjectives, et il y a aussi des façons de ne pas pouvoir aimer. Freud, en 1912, s'est intéressé à ce qu'il appelait alors la psychologie de la vie amoureuse. Et il avait noté, chez les sujets masculins, un trait qui se répétait, une façon de ne pas pouvoir aimer, qu'il a nommé un rabaissement de la vie amoureuse. En s'intéressant à la vie amoureuse, Freud a en effet observé ce trouble étrange qui fait que certains sujets masculins sont frappés d'impuissance avec une femme qu'ils aiment, et qu'ils aiment même trop peut-être, alors qu'ils parviennent à désirer une femme qu'ils n'aiment pas et pour laquelle ils n'ont aucune estime. En somme, plus ils sont amoureux et surestiment leur objet d'amour, et moins ils parviennent à désirer. En revanche, moins ils aiment, et plus la voie du désir semble simple. Ce que Freud nomme ainsi « rabaissement de la vie amoureuse » ou « ravalement » s'articule à un symptôme qui est celui de l'impuissance psychique. Il s'agit d'une impuissance qui n'a pas de causalité physiologique, mais qui vient d'une configuration psychique particulière, et qui d'ailleurs peut trouver à se dépasser lorsque la configuration en question est transformée. Tout se passe comme si l'angoisse conduisait ces hommes frappés d'impuissance psychique à ne pouvoir aimer la femme désirée et à ne pouvoir désirer la femme aimée. Comme si désir et amour ne pouvaient se conjuguer ensemble. Freud a observé en effet ce trouble étrange qui fait que certains sujets masculins sont frappés d'impuissance avec une femme qu'ils aiment, et qu'ils aiment même trop peut-être, alors qu'ils parviennent à désirer une femme qu'ils n'aiment pas et pour laquelle ils n'ont aucune estime. Freud a nommé ce clivage « ravalement de la vie amoureuse » pour signifier cette nécessité de rabaisser, de dévaloriser, voire de mépriser une femme pour pouvoir la désirer. Freud propose alors le paradoxe suivant pour rendre compte de cette séparation entre l'amour et le désir. « Là où ils aiment, écrit-il, ils ne désirent pas. Et là où ils désirent, ils ne peuvent aimer. » Cette difficulté indique qu'il n'y a pas d'harmonie préétablie entre l'amour et le désir, et même quelquefois que l'amour peut devenir un obstacle au désir. C'est le clivage bien connu qui conduit certains hommes à ne pouvoir considérer les sujets féminins que comme mère, idéalisée et adorée, ou comme putain, rabaissé et méprisé.
Comment voulez-vous faire l'amour ? Tendrement ou violemment ?
Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit.
Ça dépend des jours et des opinions.
La maman et la putain.
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Immortalisé au cinéma par le film de Jean Eustache. Cette façon de rabaisser n'est pas toujours explicite, elle est quelquefois en pointillé. Et elle peut conduire une femme à s'interroger dans l'angoisse sur ce qu'elle est pour l'autre. Mais il faut avancer encore un peu dans l'interprétation psychanalytique de la vie amoureuse pour en saisir toute la complexité. Après Freud, Jacques Lacan avance une autre proposition qui s'en rapproche, mais va un peu plus loin dans l'exploration du malentendu amoureux. À partir d'un abord du féminin et du masculin comme position subjective, détachée de toute anatomie, Lacan avance qu'il y a deux façons d'aimer. Côté masculin, C'est à travers un rapport fétichiste au corps du partenaire que se présente l'amour. Et c'est pourquoi Lacan parle de modalité fétichiste de l'amour. Aimer l'autre, en ce cas, c'est jouir du corps de l'autre, et plus précisément de certaines parties de ce corps. Côté féminin, la jouissance en passe par le fait d'aimer à aimer et d'aimer à être aimé. Si une femme peut tout à fait se prêter à ce jeu fétichiste, c'est aussi par amour. La jouissance féminine en passerait, selon Lacan, par le fait de se croire aimé. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance à se sentir l'élu, à croire être celle qui est choisie entre toutes, celle qui se sent exister en dehors d'une série. La rencontre amoureuse implique toujours un consentement à se laisser faire par l'inattendu, par ce qui a surgi de façon toujours surprenante. Elle implique aussi un consentement au malentendu. Bien que l'on ne se comprenne jamais totalement, on continue de se parler et on tente de faire résonner la vérité de l'amour, l'énigme du désir. Dans la rencontre amoureuse, je peux me laisser faire en éprouvant une véritable jouissance, mais je peux aussi me laisser faire en éprouvant une angoisse. L'angoisse surgit lorsque je ne sais pas ce que l'autre veut de moi et que je cherche à le savoir en attendant des preuves d'amour. Je me laisse alors faire par l'autre pour voir ce qu'il veut vraiment, jusqu'où il est capable d'aller, qui il est au fond. Mais je suis inquiète, car je ne saisis pas la teneur des intentions de l'autre et en même temps je ne veux pas passer à côté de l'occasion à saisir. Alors j'y vais. Je me laisse porter par l'événement. Je me laisse faire pour voir, pour savoir, mais aussi pour laisser l'autre me montrer ce qu'il désire, ce qu'il peut assumer ou ne pas assumer de son propre désir, comme si les intentions de l'autre pouvaient d'autant mieux se révéler à moi que je me laissais faire par lui.
Je te méprise. Voilà très sentiment que j'ai pour toi.
On ne saura jamais si Camille aimait vraiment Paul. Ce que l'on sait, c'est qu'elle lui demande si lui l'aime, s'il aime son corps et sa façon d'être. On ne saura jamais pourquoi elle s'est laissée faire en consentant à monter seule dans la voiture de Jérémy Procoche, le producteur, alors que Paul aurait dû l'accompagner ou l'emmener en taxi avec lui pour faire ce bout de trajet entre les studios de cinéma et la villa. On ne saura jamais ce qui s'est exactement passé pendant le trajet jusqu'à la villa.
Allons-y si tu veux.
Hélène, s'il vous plaît.
Asseyez-vous, madame.
Paul, you won't be comfortable back here, so why don't you take a taxi?
Non, monsieur Procoche, je reviens vous.
Non, allez-y, je prends un taxi.
Écoute, ce serait plus simple qu'ils partent devant et qu'on prenne tous les deux un taxi.
Come on, let's go.
Bon, allez, vas-y. Vas-y, allez.
Jean-Luc Godard en fera le récit à travers deux plans profonds qui en passent par le regard et la chevelure de Camille. D'abord le regard, son regard à elle, qui est presque un regard d'imploration envers son amant. Un regard inquiet et insistant de Camille envers Paul. Un appel même, avant de monter dans la voiture. « Paul, viens !» C'est un regard et une demande, sous les yeux du producteur lui-même. C'est donc une demande contenue, qui déjà fracture quelque chose de l'intimité de Camille. C'est sous le regard du producteur que Paul la laisse. Paul baisse la tête, fait comme s'il ne comprenait pas l'enjeu, laisse Camille en suspens, prise entre l'impatience de Procoche et sa lâcheté à lui. Son amoureux fait comme si rien ne se passait, comme si elle ne risquait rien, comme si c'était normal de la laisser monter seule avec l'autre homme sans un mot. Le regard de Camille dit à cet instant la détresse et peut-être la cassure. Il dit « Es-tu sûr, Paul ?» que tu veux que je me prête à cela ? Paul n'est plus là pour elle. Paul la laisse à un autre sans mot dire. Paul consent à la donner. Était-elle déjà décoiffée lorsqu'elle est montée dans la voiture du producteur ? Sa magnifique chevelure blonde, retenue par un bandeau sombre au-dessus du front, était-elle ainsi emmêlée ? Lorsque Camille retrouve Paul à la villa, elle ne le regarde plus.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant que j'étais pas là ?
Rien de spécial.
Pourquoi ? Il t'a fait la cour ?
Mais Godard nous montre cette chevelure décoiffée en filmant Camille de dos dans le jardin de la villa. Brigitte Bardot, Camille, sa chevelure défaite. Godard filme cela longuement, pour nous. Où est-ce le regard de Michel Piccoli, Paul, sur Camille que l'on voit ? La chevelure légèrement ébouriffée laisse planer un doute. Le non-regard de Camille à l'endroit de Paul, qui lui est venu à bicyclette depuis les studios jusqu'à la villa, sa question « Tu en as mis du temps ?» Son silence à lui suffisent à faire le récit de ce qui s'est produit pour Camille.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Clotilde Le Guild.
Jean-Luc Godard, dans son film Le Mépris de 1963, nous plonge au cœur d'une relation de couple qui se défait. Quel est le mépris, la discordance qui circule entre les êtres, à contresens de la beauté des lieux, à l'envers des magnifiques plans de l'île de Capri, vue depuis la villa Malaparte, la mer à l'horizon. Ennui, lassitude, silence, non-dit, mépris. Qui méprise qui, d'ailleurs ? Le film s'ouvre sur une séquence mythique où la musique de Georges Delerue nous envoûte autant que la beauté de Brigitte Bardot et que la façon dont la caméra suit les contours du corps de celle qui tente de parler d'amour en se laissant fétichiser par son partenaire.
Tu vois mes pieds dans la glace ?
Oui.
Tu les trouves jolis ?
Oui. Très.
Et mes chevilles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes mes genoux aussi ?
Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
Et mon visage ?
Camille, allongée nue sur un lit aux côtés de Paul, parle de ce corps que lui voit. Son corps à elle pour lui. Elle lui demande tranquillement, en regardant ses pieds, s'il aime ses pieds. Oui, il les aime. S'il aime ses cuisses. Oui, il aime aussi ses cuisses. S'il aime son derrière. Oui, je l'aime. S'il aime sa bouche aussi. Oui. Dit Paul. Il aime chaque partie de son corps. Alors, tu m'aimes totalement ? Répond Camille. Oui, il aime totalement des pieds à la tête. Ce que Lacan nomme la dimension fétichiste de l'amour est parfaitement illustré par cette scène d'ouverture qui dévoile les coordonnées du malentendu amoureux. Ce n'est donc pas sur le mépris que s'ouvre le film, mais sur une méprise. Paul aime-t-il totalement Camille parce qu'il aime chaque partie de son corps ? Parce qu'il répond oui à chacune de ses questions ? Paul est peut-être celui qui consent à toujours dire oui, sans vraiment y être, sans vraiment y croire. Il répond à Camille, mais il semble être ailleurs, peut-être absorbé par le scénario qu'il a à écrire pour un film tourné par un autre. Camille l'interroge, comme pour savoir où il est et qui elle est pour lui. Invité par Jérémy Procoche, qui est joué par Jack Palance, dans sa villa aux alentours de Cinecittà, Paul arrive au studio avec Camille et laisse monter Camille seule dans la voiture du producteur. Était-ce prévu ainsi ? Pourquoi Camille se retrouverait-elle seule avec un autre homme qui domine Paul par ses moyens financiers, par son pouvoir décisionnaire ? Un autre homme qui a la main sur le film ? Doit-il aussi avoir la main sur sa femme ? Le regard de Camille sur Paul est une seconde fois filmé par Godard lorsque la scène se répète à Capri et que Paul la laisse monter seule en bateau avec l'autre. À ce moment-là, ce regard est aussi le reflet de sa question, de son angoisse. Paul, viens ! Paul ! Paul ! Ce moment vient contredire et annuler la scène d'ouverture. Paul aime totalement ce corps, mais il ne tient pas particulièrement à garder Camille pour lui. C'est ce que Camille découvre. L'espace d'un instant à Rome, avant d'ouvrir la portière de la voiture décapotable et de s'asseoir là, à portée de main de l'autre. Et une seconde fois à Capri, avant de monter sur le bateau.
Monsieur Procoche dit que vous êtes toute la journée avec votre mari.
Paul.
You mind if your wife comes along with me?
Est-ce que ça vous ennuie que votre femme vienne avec nous?
Dans le regard de Camille, que filme Godard, il y a quelque chose comme une détresse. Un « ne me laisse pas à lui, ne me donne pas ainsi au producteur en objet d'échange pour ton scénario ». Mais Paul ne répond pas et fait mine de ne pas comprendre. Paul consent à la livrer à l'autre en faisant comme si rien ne se passait, en dépit du regard de Camille. De même qu'il consent à réécrire le scénario d'un autre, celui de Fritz Lang qui tourne son film Odysseus, sans l'approbation du producteur.
Odyssea 701.
Avanti.
Azione.
En ce lieu où Paul ne dit plus rien, le consentement au sens du « qui ne dit mot consent » vient trouver sa place. Ici, c'est le « qui ne dit mot consent » d'un homme qui se tait pour dire « oui, j'accepte que tu montes avec lui ». L'absence d'une parole de Paul dit son consentement à laisser Camille au producteur. C'est un consentement qui se situe aux confins de la lâcheté. C'est le « qui ne dit mot consent » du lâche qui se tait pour cacher son consentement. Paul laisse Camille monter dans la voiture du producteur comme s'il ne savait pas ce qui allait arriver, comme s'il ne se passait rien de particulier. Alors qu'il sait, en cet instant, Camille se laisse faire. Elle appelle Paul comme pour lui dire « C'est vraiment ça que tu veux ?» Comme pour le confronter à son non-désir et se soumet à sa non-réponse. Elle se laisse faire par le silence de Paul. Le film qui doit être tourné par Fritz Lang sur l'île de Capri porte le nom d'Odysseus. C'est une nouvelle version du récit homérique qui contredit l'histoire d'Ulysse et de Pénélope, en remettant en question la fidélité de Pénélope. Et si Pénélope avait trahi Ulysse ? Et si Ulysse, plutôt que d'être empêché de revenir auprès de Pénélope, prenait tout son temps pour revenir le plus tard possible à Ithaque, parce qu'il n'a pas envie d'y retourner ? Le scénario inverse ainsi le récit d'Homère et fait de la femme une traîtresse. D'Ulysse, un homme détaché de sa femme, comme si l'Odyssée devenait celle de ce détachement. Comme si le récit d'Homère au XXe siècle, c'était aussi l'histoire d'un couple qui se défait. Si Camille s'est laissée faire par Procoche, n'est-ce pas parce qu'elle était d'accord finalement d'accord avec Paul sur le fait que c'était déjà fini entre eux ? On ne le saura jamais. Mais le parti pris de Camille, cette Pénélope qui n'attend plus rien d'Ulysse, est de ne jamais rien lui dire. Son parti pris, c'est le silence. En ce point où Paul l'a méprisée, en la donnant à un autre comme un pur objet d'échange, sa femme pour son film.
Je te méprise. Voilà très sentiment que j'ai pour toi. C'est pour ça que je t'aime plus.
Camille méprise Paul. Elle ne lui parle plus. Elle ne lui dit rien. Son silence est le signe de son mépris. Elle le laisse avec son consentement et sa lâcheté. Si Camille s'est laissée faire, c'est alors pour savoir si Paul l'aimait ou pas. Elle n'a plus besoin de lui demander s'il aime son corps. Elle sait maintenant qu'il ne tient pas à elle en tant que femme. À la fin du film, Camille ne lui dira qu'une chose avant de le quitter et de partir avec Procoche. « Je te méprise, Paul. Je m'en vais parce que je te méprise. » Paul cherchera à savoir, ou plutôt fera semblant de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Pourquoi ? C'est parce que je t'ai laissé monter dans la voiture du producteur. Camille ne répond pas. Et Paul sait très bien que Camille n'a pas besoin de lui répondre. C'est parce que je te méprise, Paul. Camille ne lui donnera pas d'autres raisons, ne lui fera pas de reproches. Ils ne se disputeront pas. Paul n'existe plus pour Camille. Elle le méprise d'avoir été cet homme qui a eu du mépris pour leur amour. Là où il a consenti à la donner en pâture à un autre, pour son scénario qu'il n'arrivait pas à écrire, un autre auquel elle s'est finalement donnée d'elle-même, elle le méprise dans sa lâcheté. Elle méprise son silence, elle méprise sa jouissance à ne rien choisir.
Silence !
Silencio !
Le film se clôt sur ce mot, silencio, ouvrant la scène sur le grand large. Fin. Le se laisser faire de Camille apparaît à la fin du film comme un acte. Elle a retourné le mépris de Paul en choisissant de partir avec le producteur. On ne saura jamais si elle aime Procoche, le producteur. Mais on sait qu'elle n'aime plus Paul, qu'elle ne pourra plus jamais l'aimer. La passivité de Camille au moment où Paul l'a lâchée, depuis cet instant où toute sa lâcheté à lui s'est dévoilée en silence, a été comme un moyen de faire surgir une vérité. Camille a fait surgir la passivité de Paul, son non-désir à lui, sa façon de céder sans en avoir l'air. Paul ne l'aime donc pas. Le se laisser faire de Camille s'est retourné contre Paul. Elle en a fait une force. Elle le laisse seul, enfermé dans son silence, sans elle. Camille est un personnage féminin paradoxal qui à la fois se laisse faire et détient la force pourtant d'assumer à la place de Paul leur séparation. Elle n'entrera pas avec lui dans un débat sur ce qui a eu lieu, sur la responsabilité de Paul, sur sa lâcheté, sur leur amour. Elle lui dira juste « Je te méprise. Toi, qui m'as fait croire que tu m'aimais totalement, alors que tu m'as instrumentalisé pour ton film, toi qui m'as parlé d'amour, alors que je n'étais pour toi qu'un objet d'échange. » Camille a retourné le mépris de Paul à son endroit en se taisant et en partant avec l'autre. Ce que Paul voulait, ce qu'il a consenti à rendre possible. Avec ce film lumineux et mystérieux à la fois, nous pouvons explorer un sens très singulier du consentement de part et d'autre de ces deux amants. Le consentement de Paul est celui du « Qui ne dit mot consent ? C'est celui d'un amant qui n'a pas le courage de son désir, celui qui finalement se laisse faire par la loi du plus fort, celui qui se tait par lâcheté. Mais le consentement de Camille est autre. C'est un consentement trouble et troublant, où se mêlent désir et angoisse. C'est un consentement qui cherche à interroger ce qu'elle est pour lui. C'est un consentement qui répond à l'angoisse de ne pas saisir ce qu'est le désir de Paul. Et c'est bien ainsi que Jacques Lacan avait pu définir l'affect d'angoisse. Comme un affect qui surgit devant le désir de l'autre dont je ne comprends pas ce qu'il veut et dont je me demande s'il peut me perdre. La force de Godard est de nous montrer comment le se laisser faire de Camille fait surgir une vérité, la vérité de ce qu'elle est pour Paul.
Je te méprise. Voilà très sincèrement que j'ai pour toi. C'est pour ça que je t'aime plus.
Dans l'expérience de l'analyse, on est toujours conduit à interroger l'énigme de son consentement. Aussi bien ce que j'ai laissé faire que la façon dont je me suis laissé faire. On est conduit à s'interroger sur les instants où l'on n'a pas su assumer son désir, où l'on a malmené ce à quoi pourtant on tenait en vérité. On est conduit à affronter les paradoxes de l'amour. On en vient à affronter ces expériences où on s'est laissé faire sans pour autant vouloir ce qui nous arrivait, ou même, de façon plus paradoxale, ces expériences où l'on s'est donné beaucoup de mal pour que nous arrive ce que nous ne voulions pas. C'est aussi en parvenant à nous séparer de notre angoisse que nous empruntons un nouveau chemin, consentant à rebattre les cartes, nous aventurant à lancer à nouveau les dés et à nous séparer de ceux qui faisaient obstacle à notre désir.
Silence !
Enfin.
Silencio !
Ici s'achève ce troisième épisode sur le consentement et les paradoxes de l'amour, du désir et de la jouissance. Restez à l'écoute, dans un instant, je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici « Aimer puis vivre » Christine and the Queens sur France Inter.
Love, love, a wave, love without love. Tu m'avais
sur France Inter dans l'inconscient. C'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour, j'avais une question sur la difficulté parfois à aimer et à désirer la même personne. Vous masculinisez beaucoup votre démonstration et vos phrases. Est-ce à dire que cela n'existe que chez les hommes et cela ne peut pas exister chez une femme? Et si oui, est-ce qu'il y a une différence entre les deux dans les raisons? Merci.
Merci Christine pour cette remarque peut-être me donne l'occasion de préciser un peu ce que Freud et Lacan ont essayé de déchiffrer quant aux modalités de l'amour. Vous avez tout à fait raison, du côté féminin, on peut tout à fait rencontrer de la même façon une difficulté à désirer et à aimer, au fond, le même partenaire. Mais ce que Freud et Lacan cherchent à montrer, c'est que, au fond, il peut s'agir aussi du côté féminin de quelque chose comme une identification masculine. Hein, c'est pas parce qu'une femme est anatomiquement reconnue, disons, comme femme, que pour autant elle ne peut pas, elle n'a pas le droit de s'identifier aussi bien à un homme, voire de se sentir homme, voire, comme dit Lacan, de se sentir femme, couleur d'homme, hein, comme il dit joliment, pour faire saisir qu'il y a là toute une palette de nuances dans notre rapport à la fois à l'identification sexuée et à la sexualité. Donc, en effet, cette contradiction entre l'amour et le désir, on peut tout à fait la rencontrer aussi du côté féminin. Mais ce que nous dit Freud, c'est que du côté féminin, alors là, je ne l'ai pas développé en effet, mais j'aurai peut-être l'occasion de le développer dans ce cycle sur le consentement. Du côté féminin, cette contradiction, elle se formule un petit peu différemment depuis finalement un certain goût du secret, un certain goût pour finalement une relation amoureuse qui comportera aussi cette dimension de secret et qui, par la dimension du secret, au fond, aiguisera quelque chose du désir. Voilà. Là où Freud voit du côté masculin quelque chose comme la nécessité d'un ravalement, d'un rabaissement, au fond, pour faire voie d'accès au désir sexuel, eh bien, il voit du côté féminin quelque chose comme un rapport à la dimension du secret, au fond, de la relation à l'amant en secret, hein, qui viendrait contribuer à la dimension du désir. Alors voilà, ce sont des analyses aussi de Freud, du temps de Freud, hein, du temps de ce qu'était aussi la vie amoureuse et sexuelle du temps de Freud, mais peut-être qu'elles contiennent quand même des éléments qui peuvent aujourd'hui encore nous éclairer dans la clinique des relations amoureuses.
Bonjour Emmanuel, un message pour Clotilde Le Guil. Alors, je me suis demandé pourquoi Godard réunissait dans un même film Brigitte Bardot et Fritz Lang. Fritz Lang, c'est pour moi le réalisateur de Anne le Maudit, celui qui figure au cinéma la bête immonde qui arrive à nos portes et réduit au silence les êtres comme s'ils étaient des proies. Fritz Lang qui a été éjecté d'Allemagne, qui a dû partir à Hollywood pour continuer à faire des films, son odyssée personnelle. Quant à Brigitte Bardot, elle est la star absolue en ce début des années 60, une star offerte au public, mais aussi découpée par le regard de la foule dévorante, comme elle le dit d'ailleurs, mes seins, mes fesses, mes cuisses, est-ce que tu les aimes? Bardot réduite à une proie, silencieuse comme la petite fille poursuivie par M. Le Maudit, et qui 10 ans plus tard mettra fin à sa carrière d'actrice pour échapper peut-être à une forme de dévoration. Voilà mes réflexions, je vous les livre. Merci pour votre retour.
Merci beaucoup Emmanuel pour cette interprétation finalement du film de Jean-Luc Godard autour du personnage, pas seulement de Camille, mais au fond autour du personnage de Brigitte Bardot elle-même par rapport à ce qu'elle a pu incarner dans les années 60, ce qu'elle a pu incarner justement du côté de la féminité, mais aussi finalement du côté de l'objet sexuel, comme vous dites très bien, qui serait là sous le regard, dont le corps serait découpé, fétichisé, et au fond, elle a pu incarner aussi ce sujet qui s'est retrouvé en quelque sorte prisonnier aussi de cette image, hein. Et effectivement, elle s'est retirée du cinéma très jeune. Je pense que Jean-Luc Godard a offert là à Brigitte Bardot un de ses plus beaux rôles, justement, qui interprète aussi le personnage de Bardot. Et au fond, dans ce rôle, il a mis en jeu ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois, on a là une scène d'ouverture où le corps de Bardot est exhibé avec beaucoup de poésie. En même temps, il n'a jamais été aussi bien filmé. Et en même temps, on a là un personnage qui, justement, exige autre chose que ce regard fétichisé sur son corps. Hein. Un personnage qui voudrait être aimé pour son être, voudrait être aimé pour elle-même. Et je trouve que Jean-Luc Godard a donné à Bardot un de ses plus beaux rôles, mais aussi il l'a conduit à aller au-delà dans son jeu lui-même. C'est-à-dire qu'on découvre dans ce film une autre Bardot. La Bardot de la dispute amoureuse, la Bardot de l'angoisse, la Bardot de l'inquiétude, et au fond, la Bardot qui va poser un acte aussi en quittant le cinéma.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour, Emmanuel. Chère Clotilde Guil, j'écoute avec attention vos interventions sur les paradoxes de la vie amoureuse et l'énigme du consentement à partir de l'inconscient. Vous précisez qu'en amour, la femme veut être désirée pour ce qu'elle est. Je crois que Lacan disait qu'en matière d'amour, les femmes sont plutôt arrangeantes et prêtes à tout pour être aimées autant que désirées. Ma question se situe là. Sans tomber dans une quelconque dichotomie homme-femme, comment pourriez-vous nous parler de cette pente féminine, disons-le ainsi, au sacrifice ? Freud, dans son temps d'ailleurs, je crois, parlait d'un masochisme féminin. Voilà ma question. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette question qui porte, au fond, sur le rapport à l'amour chez les sujets féminins en tant que l'amour renverrait finalement à une forme de jouissance particulière. Alors ce que je retiens de votre question, c'est d'abord que vous faites référence à Freud et en effet à une expression de Freud qui a pu d'ailleurs produire un certain nombre de controverses, qui est celle d'un masochisme féminin, comme si il y avait au fond un goût pour la souffrance qui serait proprement féminin. Et on voit effectivement le danger qu'il y a à affirmer l'existence d'un masochisme féminin qui pourrait conduire à essentialiser, au fond, les sujets féminins. Dans un article que vous connaissez peut-être, qui est un article très important de Freud, qui s'intitule « Le problème économique du masochisme », justement, Freud distingue trois formes de masochisme. D'abord le masochisme érogène, donc dans la vie sexuelle elle-même. Ensuite, celui que vous avez nommé, le masochisme féminin. Et enfin, le masochisme moral. masochisme moral qui me semble être plutôt, au fond, la clé de la question du supposé masochisme féminin. Comment est-ce qu'on peut définir le masochisme moral dans la dimension de l'amour ? C'est assez complexe, mais au fond, le masochisme moral, d'ailleurs, il ne concerne pas uniquement les sujets féminins, il concerne aussi bien les sujets masculins. Le masochisme moral, il a à voir avec le rapport que chacun nous avons avec notre surmoi, avec cette instance en nous-mêmes que Freud a nommée notre surmoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Lacan, finalement, a éclairer le masochisme féminin en se référant au fond à une forme de surmoi du côté féminin dans l'amour. Au fond, il a éclairé le masochisme féminin à partir du masochisme moral. C'est-à-dire que le dernier mot de l'affaire, ce ne serait pas tellement le masochisme féminin, c'est-à-dire un goût spécifique pour la souffrance du côté féminin, mais un rapport, au fond, essentiel à l'amour, comme si le sujet féminin cherchait dans l'amour quelque chose de son propre être, quelque chose de son propre désir, et au fond, à travers une forme de jouissance singulière. Et effectivement, vous avez aussi cité Lacan, qui dit cette phrase très jolie dans Télévision à propos d'une forme de folie féminine dans l'amour, folie au sens courant, hein, pas au sens de la psychose, mais au sens d'une folie ordinaire, et qui dit finalement que les femmes ont un côté fou dans l'amour, hein, comme si elles voulaient croire aussi à l'amour fou, au sens où elles sont prêtes à tout donner dans l'amour. Il n'y a pas de limite, dit Lacan, aux concessions qu'elles peuvent faire dans l'amour. Et je crois que c'est en ce point, finalement, que se situe peut-être quelque chose comme la résolution de l'énigme, peut-être de quelque chose de l'ordre d'une soumission féminine à l'amour. Et donc, il ne s'agit pas tant, au fond, de chercher à tout prix à se sacrifier en souffrant, en atteignant un point de souffrance particulier, mais au fond, de chercher quelque chose dans l'amour qui peut conduire une femme à faire des concessions au-delà de son être. Voilà.
Bonjour, tout d'abord des remerciements pour vos émissions qui sont un enseignement, tout autant que vos livres d'ailleurs. Le mépris est important pour moi, puisqu'il est un des affects de mon enfance. Affect qui a magiquement disparu par vexation. Le jour où mon père m'a révélé qu'on ne méprisait que ce qui était méprisable. Je ne m'étais plus penché sur ce mot depuis, et même si au fond je le savais, je n'avais pas remarqué qu'en passant du masculin au féminin, du mépris à la méprise, on passait aussi d'une forme de sentiment à une forme d'erreur. Au début du film, Camille se méprend sur l'amour charnel que Paul pourrait lui porter, ou bien peut-être, d'une certaine manière, peut-on dire qu'elle teste l'amour de Paul une première fois. Dans un second temps, et après que Jean-Luc Godard ait mis en scène leur discorde lors de nombreuses disputes, elle exige de son compagnon un amour au-delà du fétichisme du corps. Un amour qui l'engagerait, lui, comme sujet. Mais puisqu'elle a ce courage d'exiger un engagement, comment comprendre la mort de Camille ?
Merci beaucoup, Bernard, pour ce témoignage qui est à la fois touchant et enseignant, d'abord, sur ce souvenir d'enfance. Votre père a dit une phrase comme ça, générale, au fond, qui ne s'adressait pas à vous en particulier, une phrase sans tu, sans je, hein, une phrase qui dit, comme une sorte d'aphorisme, « on ne méprise que ce qui est méprisable ». Hein. Mais vous dites que, par-delà la vexation, au fond, il y a quelque chose qui vous a comme réveillé, comme si, au fond, avec cette phrase, vous aviez saisi qu'il n'y avait aucun fondement à ce sentiment, puisque vous n'étiez pas méprisable. Vous êtes comme désidentifié de cet être méprisé. Donc déjà, je vous remercie pour ce témoignage, pour ce souvenir d'enfance qui est très précieux. Ce que vous dites du film du mépris va m'amener peut-être à aller encore un peu plus loin dans mon interprétation, et je vous remercie pour cela de faire référence à la fin du film que j'avais en effet gardée secrète. Vous soulignez effectivement que Camille attend au fond de son compagnon, qu'elle exige même de son compagnon, un autre amour que cet amour purement fétichiste. Oui, elle a le courage d'exiger cet engagement. Jean-Luc Godard, en effet, fait disparaître Camille à la fin du film. Il l'a fait disparaître une seconde fois, puisque Camille, qui fuit en voiture, enfin qui quitte la villa en voiture avec Jérémy Procoche, va avoir un accident de voiture et mourir dans cet accident juste avant la toute fin du film. Alors je me suis demandé en effet comment on pouvait interpréter cet accident de voiture, et ce qui me vient là peut-être, c'est que au fond, Godard, avec cet accident tragique, conduit Paul à perdre Camille une seconde fois. Avec l'accident de voiture, ce que Godard nous montre, c'est qu'il l'a perdue pour toujours. Il ne la retrouvera jamais. Et d'une certaine façon, tel Orphée qui se rend aux enfers pour retrouver Eurydice, eh bien, il la perd une seconde fois. Et il me semble que c'est peut-être un des messages, en tout cas, que Godard nous fait passer avec cette fin tragique. Hein, cette idée, au fond, que la perte sera pour Paul irrémédiable. Merci pour vos questions et merci à Laurent Baudouin, à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Gourion qui vous parlera des psychédéliques. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur toutes les plateformes, dans l'application Radio France ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 10 décembre pour mon prochain épisode sur le consentement et le gaslighting, avec Gaslight de Georges Cukor.